La violence de l'étonnement peut révolutionner notre vision du monde et de nous-mêmes en remettant tout en question.
Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité.
La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans le faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours.
On oublie qu'émerveillement ne signifie pas naïveté.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
Nous sommes Pierre et Hugo Laplace et nous vous souhaitons la bienvenue sur Live for You, un podcast autoproduit pour Since Nothing. Au fil des épisodes, nous allons à la rencontre d'artistes, scientifiques ou philosophes qui, par leurs travaux, développent des discours alternatifs aux subversifs, c'est-à-dire en rupture avec nos imaginaires sociétaux actuels. Ensemble, nous déconstruisons les évidences qui nous empêchent trop souvent de percevoir l'étrangeté de notre quotidien. Quand bien même qu'il serait joyeux, dangereux, mélancolique ou amoureux, l'émerveillement a mille facettes qui n'attendent qu'à être embrassé. Nous tenons à préciser que nous basons nos entretiens sur la base de discours validés scientifiquement, rationnels ou basés sur un argumentaire solide au plus proche du réel et des faits, au-delà de nos simples interprétations afin de valider ou non certaines hypothèses et ainsi nous doter d'une nouvelle grille de lecture fiable de notre environnement. Nous savons, certains sujets auxquels nous nous confrontons au cours de notre vie peuvent être parfois compliqués à aborder, et c'est bien sûr le cas avec la santé mentale, qui est encore un sujet extrêmement tabou au sein de notre société. Mais pour ceux qui suivent notre podcast depuis ses débuts, vous savez qu'il est possible de s'exprimer ouvertement via l'appui de supports. Alors que pour certains, cela passe par la musique, l'écriture, voire même la photographie, notre invitée du jour a, elle, choisi le dessin. Lola Ferré est graphiste et illustratrice en freelance et a créé un compte Instagram Bernard le Cyclope, où Lola expose à ses 8000 abonnés, via le personnage de Bernard, les conséquences que peut avoir sur sa vie quotidienne les crises d'angoisse, le fait de souffrir d'un trouble du déficit de l'attention ou encore les nombreuses pressions sociales que peut subir une personne en dépression. Alors qui se cache derrière Bernard le Cyclope ? Comment ce personnage est devenu une véritable béquille pour Lola ? Comment Lola gère-t-elle au quotidien ses crises d'angoisse ou les différentes pressions qu'elle peut ressentir ? Bienvenue dans ce nouveau podcast avec Lola Ferré.
Salut Lola.
Salut.
Salut. Alors, merci de nous avoir contactés, c'est dans ce sens-là pour cet épisode-là. On avait mis une petite story sur Instagram et t'avais répondu à cette dernière où on cherchait des invités. Et merci de nous avoir contactés parce qu'on va parler de santé mentale et à travers un prisme qu'on n'a pas vraiment l'habitude de le faire, à travers un compte d'illustration. Donc, merci à toi de nous avoir contactés.
Et de rien, c'est un plaisir. J'avais beaucoup aimé le podcast que vous aviez fait avec Vinaigre Blanc. Et quand vous avez mis une story, je me suis dit que ça matchait parfaitement avec ce que je faisais, donc c'est trop cool.
Ouais, t'as bien fait. Pour introduire un peu ce podcast et puis y aller tranquillement, est-ce que tu peux nous raconter, comme ça va aussi mettre un peu de contexte, ton histoire liée à la santé mentale, comme ça on pourra aussi faire un peu lien sur ton travail d'illustration que tu fais.
Ouais, carrément. Là, moi j'ai actuellement 24 ans. Bientôt 25, je vis à Paris et j'ai eu une vie globalement géniale, une enfance géniale, une famille géniale, assez confortable, je vis à Paris, enfin c'est super. Et en fait, vers mes 15 ans, j'ai commencé vraiment à switcher d'humeur ou de perception de la vie. Et d'un coup, tout m'a paru hyper dur à vivre et tout m'a paru hyper intense et je sais pas, c'est comme si j'étais devenue une autre personne d'un coup. Du coup, au début, c'était hyper bizarre. Et en fait, dans mon enfance, ça se ressentait pas vraiment. Et donc, du coup, ça fait à peu près 10 ans que j'apprends à vivre avec toutes ces émotions et ces ressentis.
Tu sais ce qui t'a fait switcher, justement, ou c'est quelque chose qui est venu progressivement ?
Je pense que c'est que je vivais un peu dans une bulle de perfection et de non-problème. Et d'un coup, vers 15-16 ans, en fait, on devient un peu plus adulte et on est confronté à des problématiques où on sort du cadre familial de nos parents nous protègent, etc. Et je pense que j'ai capté, c'est tout bête, mais Genre, par exemple, l'homophobie, pour moi, ça n'existait pas. Enfin, c'était quelque chose qui n'existait plus. Et quand j'ai capté que ça existait encore, bah, je sais pas, ça m'a fait tout drôle. Pareil avec l'inégalité des sexes, pareil avec, je sais pas, moi, des histoires que vivaient les gens que je vivais pas. En fait, j'étais dans une bulle où il y avait aucun problème. Et d'un coup, j'ai découvert tous les problèmes de la Terre. Et je crois que ça m'a choqué. Et après, ouais, du coup, j'étais pas bien.
Ouais, c'est plus un peu la confrontation à la société, en fait, actuelle, qui...
Ouais, c'est ça.
Ouais, effectivement, ouais, tu t'es rendu compte de plein de trucs, et... Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, ouais, surtout que... Mais comme tu dis, ouais, en fait, il y a encore plein de choses qui... Où, en fait, comme tu parlais, effectivement, de l'homophobie, ce genre de choses, on se dirait, au 21e siècle, normalement, ça devrait être terminé. Et en fait, ça existe encore largement, et...
Et vraiment, après que les femmes, elles gagnaient encore moins que les hommes, pour moi, c'était quelque chose qui avait été aboli en même temps que l'esclavage, tu vois. Genre, c'était vraiment pas... Enfin, je sais pas, je pense que j'étais choquée de tout, et j'étais plus dans ma bulle de protection, et du coup, je sais pas, ça m'a foutu une claque un peu...
Ouais, mais c'est intéressant parce qu'il y avait... Alors, à chaque fois, j'ai l'impression que je la cite et je mange son nom à chaque fois. C'était une philosophe américaine qui expliquait justement que quand tu deviens adulte, quand t'es enfant et adolescent, t'as une certaine idée du monde. Et quand tu deviens adulte, tu te confrontes finalement à ce qu'est le monde vraiment. Et souvent, il y a un décalage entre ce que toi, t'as idéalisé et puis le monde, comment il est en réalité. Et ouais, ça peut créer ça peut créer un petit choc, quoi, au final. Voire un gros choc dans ton cas.
D'autant plus que moi, je vivais dans une situation où il y a très peu de gens qui vivent dans une situation aussi confortable, je pense. Et du coup, en fait, ça m'a juste fait peur. Je me suis dit, mais comment je... Enfin, en fait, j'ai pas du tout envie d'évoluer dans ce monde-là. Je sais pas, ça m'intéresse pas, tu vois.
En plus, toi, t'es où ? T'es à Paris ?
Ouais.
Ouais, en plus, je pense que toi, à Paris, t'as aussi une mentalité de ville qui est aussi un peu peut-être différente du reste un peu du pays ou de... Ou c'est vrai que des sujets peut-être comme l'homosexualité ou des choses comme ça, en ville, c'est que le milieu urbain est peut-être un peu plus avancé que dans des milieux plus ruraux. Et c'est vrai que si t'as peut-être grandi majoritairement à Paris, c'est vrai que t'étais peut-être plus confronté à des discours qui allaient un peu dans ton sens, quoi, quand t'étais plus jeune.
Avant de continuer, sachez que chez Since Nothing, nous ne faisons pas que des podcasts ou des vidéos. Pour soutenir notre travail, vous pouvez vous rendre sur ghost.sincenothing.com. Le lien est en description de cet épisode. Afin de découvrir nos collections de t-shirts imprimés en sérigraphie par nos soins, dans un univers hardcore et tatou qui font écho à nos questionnements sur la place de l'émerveillement dans nos vies, malgré nos peurs et nos souffrances mentales et sociétales. Merci et bon podcast.
Alors, il y a ta particularité, c'est que, comme toi, t'es illustratrice, et tu as créé sur Instagram le personnage et le compte Bernard Cyclope pour parler de santé mentale et de ce que tu traverses. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce personnage de Bernard Cyclope ?
Alors, déjà, il s'appelle Bernard, je sais pas vraiment pourquoi, c'est comme ça. J'ai vu sa tête et je me suis dit, c'est Bernard. Et en fait, il a été créé quand j'étais au lycée. Et que j'allais pas vraiment en fait en cours, ou alors quand j'y allais, j'y étais pas vraiment. Et j'ai commencé à dessiner. Au début, j'ai commencé à dessiner tout court parce que je me suis dit, je sais pas, ça a l'air sympa, je vais dessiner. Et puis après, j'ai commencé à dessiner sur mes cahiers comme beaucoup de gens. Puis j'ai commencé à dessiner ce personnage. Et puis en fait, il revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je dessinais beaucoup la nuit chez moi. Et puis au début c'était vraiment que des dessins, voilà, j'avais un petit personnage mais je dessinais un peu des formes, des choses pas très concrètes. Et un jour j'ai eu parce que j'ai fait une école de graphisme, et j'ai eu un projet qui était un peu de faire un roman graphique, et du coup j'ai utilisé ce personnage pour faire un roman graphique, et c'est de là qu'est né le concept de d'écrire des choses et de les illustrer, quoi.
Et le fait qu'il prennent la forme d'un cyclope, il y a rien à voir avec, il y a pas un message derrière, quoi. C'est toi, tu l'as dessiné comme ça, un peu au feeling.
Bah en fait, on peut voir un message de oui, c'est une seule perception, c'est une conscience, c'est un œil, etc. Voilà, on peut dire ça pour le commerce. Mais en vrai, c'est juste parce que dessiner deux yeux, c'est hyper dur. Du coup, j'en ai dessiné qu'un. Parce que c'est plus simple, en fait, quand on dessine deux yeux, on a l'air vite un peu bébête, et au moins un œil, c'est plus simple. Et puis, du coup, je trouvais que C'est peut-être Futurama, je sais pas si vous avez vu Futurama.
Ah ouais.
Peut-être c'est Layla qui m'a inspiré, je sais pas. Mais.
Ouais, mais c'est vrai qu'en tout cas, sur Instagram, dans ta bio, je crois que c'est marqué comme ça, tu l'as peut-être après pour orienter. Je crois que c'est marqué comme ça, c'est bien dans le Cyclope, pour avoir un œil sur la santé mentale.
Ah oui, du coup, effectivement, peut-être que j'ai écrit ça.
Ouais, il me semble, je crois, j'ai vu ça tout à l'heure.
dans l'œil des émotions, j'ai.
Ouais, c'est ça, exact. Donc ouais, ça permet un peu de justifier le fait qu'il ait qu'un œil, on va dire.
Oui, c'est ça. Puis je trouve que c'est le Cyclope, il y en a pas beaucoup en fait, et je trouve que c'est sympa comme personnage. Tout le monde connaît, c'est un peu universel et tout.
En plus, je trouve que ce qui est cool, c'est que toi, quand on voit ton compte Instagram, tu parles d'un sujet qui est en plus un peu beaucoup tabou dans notre société. Et tu le fais avec un personnage justement qu'on retient facilement du coup, parce que c'est vrai que le Cyclope, comme tu viens de dire, c'est pas quelque chose qu'on voit de façon courante, et du coup c'est vrai que ça fait un personnage qu'on identifie, qu'on retient assez facilement.
Ouais, en fait je parle de sujets un peu lourds en vrai et surtout hyper intimes. Enfin, j'aurais jamais pensé parler de ça sur internet, tu vois. Mais le fait de le faire en fait avec des couleurs et le faire un peu simplement en parlant un peu assez simplement également, ça passe mieux quoi. C'est plus sympa.
Et justement, tu disais que tu t'aurais jamais imaginé parler de ça sur internet. Est-ce que toi tu sens que pour toi c'est du coup beaucoup plus facile de passer par Bernard le Cyclope et par l'illustration pour parler de santé mentale que tout simplement, par exemple, faire une vidéo simple et où t'expliques face caméra ce que tu ressens?
Ah ouais, dessiner et surtout écrire, c'est tellement plus simple pour moi. Et quand j'ai commencé à le faire, je racontais des trucs hyper hyper deep et hyper intimes. Et par exemple, le premier truc que j'ai écrit, ça s'appelle Brouhaha, et c'était donc pour mon cours, et je l'ai fait lire à mes parents. Et c'était horrible en fait, parce que je me suis dit mais ils vont me prendre pour une folle. Et en fait, je sais pas, c'était tellement naturel et assez écrit de manière concise et sans passer par quatre chemins, qu'ils ont compris et que ça leur a permis de mieux me comprendre quoi. Et donc c'est pareil pour Bernard, en fait à chaque fois que je ressens une émotion, à chaque fois que j'ai une idée qui me traverse l'esprit sur quelque chose dans la société ou sur moi-même, j'écris. Et en fait c'est hyper drôle parce que mon copain, il me dit souvent quand ça va pas, il me dit mais écris un Bernard. Et en fait, quasiment à chaque fois qu'il y a une situation, j'ai un Bernard écrit quoi. Donc c'est hyper pratique parce que ça me permet un peu de décharger. Après, j'y pense plus quoi.
Sur, par rapport à ce que t'écris du coup avec Bernard, c'est que des choses qui te sont liées personnellement, ou comme maintenant, t'as quand même pas mal d'abonnés sur Instagram, t'as peut-être aussi des personnes qui t'écrivent. Et du coup, tu mets en forme, on va dire, ce que certaines personnes peuvent te raconter également.
Alors ouais, c'est ça. 90% en vrai, c'est des choses que je pense et qui me touchent personnellement. Ensuite, il y a les collaborations. Donc du coup, là, c'est l'autre compte qui écrit et moi qui illustre. Mais la plupart du temps, c'est des sujets où on parle en amont de ce sujet et qui me touchent également. Sauf par exemple, on a parlé du trouble borderline. Ça me touche pas, mais en soi, ça reste de la santé mentale. Et vu que c'est une personne atteinte par ce trouble qui a écrit le post, je trouve que c'est OK. Après, dernièrement, j'ai fait un post qui s'appelle « Vos victoires ». Et en fait, j'ai demandé à mes abonnés c'était quoi leur dernière petite victoire. Et j'ai fait un post avec. Mais en soi, c'est des choses qui me concernent aussi, dans le sens où là aujourd'hui j'ai fait un truc que ça fait 2 mois que je repousse, je suis hyper contente quoi, alors que c'est quelque chose qui m'a pris 2 minutes. Donc ça peut être ça me concerne, ça concerne aussi ma communauté, et parfois je parle de sujets un peu plus niche parce que je trouve ça pertinent et intéressant quoi.
Et tu disais justement tout à l'heure que t'avais fait lire à un moment donné à tes parents un de tes posts, enfin je crois que c'était le premier, c'était ça?
Oui, au début c'était un projet d'école et après je l'ai mis sur Instagram, et c'est là que je me suis dit ça pourrait être cool de faire ça sur Instagram quoi.
Et est-ce que tu sais si t'as d'autres proches qui lisent qui lit tes posts, qui regardent tes posts, et est-ce que tu sens que ton entourage grâce à tes posts peut mieux comprendre de ce que tu vis?
Ah oui, à 100%. Pour ce qui est de ma famille, par exemple, ma mère, elle a pas Instagram, mais elle a un compte Instagram que je lui ai créé, et elle suit que Bernard. Et du coup, elle voit de temps en temps. Donc elle lit tout, elle doit tout faire lire à mon père, je pense. Mes frères et sœurs aussi, ils lisent. Et donc eux, ça va plus être... ils vont m'en parler peut-être de temps en temps, mais en fait, en vrai, ils me connaissent, donc ils savent très bien, juste, ils me soutiennent à fond sur, sur Bernard. Et pour mes amis ou mes cercles assez proches que je vois souvent, bah souvent, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui leur fait... Parce que j'ai écrit quand même sur beaucoup de sujets du quotidien, et il y en a beaucoup qui se passent quand je vois des gens. Et du coup, souvent, ils me parlent du sujet, et ils me disent « Ah bah oui, mais toi, de toute façon, tu penses ci, tu penses ça... » Donc parfois ça me charrie un peu et parfois non mais honnêtement et parfois genre par exemple la dernière fois il y a un mec qui m'a dit bah je vais pas t'énerver sinon tu vas faire un Bernard, c'est un peu drôle. et en même temps il y a des fois où ouais les gens ils comprennent vachement mieux ou justement ils sont en mode bah ouais moi aussi je pense ça et c'est trop bien dit et c'est trop cool que t'en parles et voilà quoi. Après moi j'ai pas de mal à parler ouvertement aux gens de ce que je ressens donc ça va mais enfin, moins depuis que j'ai Bernard, en fait.
Et peut-être que ça te rassure aussi, justement, maintenant que t'as quand même une certaine communauté, du coup, c'est plutôt quand même des personnes qui sont sensibles à ce que tu fais, bah, de savoir, au final, que t'es pas toute seule à ressentir ça. Et y a peut-être une forme de soutien aussi, du coup, qui apparaît.
Ouais, complètement. En fait, de voir que, déjà, je peux aider des gens, parce que je reçois beaucoup de DM qui me disent juste, bah, merci d'en parler, c'est trop bien, je me sens moins... fou ou folle, il y a un truc aussi où quand on se sent un peu différent ou à l'écart, on se sent hyper folle ou fou. Et moi, c'est quelque chose que je me répète souvent dans ma tête. Je me dis non, mais t'es complètement folle et tout, ce qui est pas du tout bien. Et en fait, de voir qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi et qui sont d'accord avec moi, bah en fait, c'est juste bon, voilà, chacun a sa façon de penser, chacun a sa sensibilité et genre c'est pas grave. Et ce qui est, c'est cool d'en parler et de normaliser le truc, quoi.
Et quand tu crées tes posts, alors t'as un peu répondu tout à l'heure quand Hugo t'a posé la question sur est-ce que tu te bases sur tes propres sentis ou est-ce que c'est aussi quand des gens t'écrivent, tout ça. Mais comment toi tu conceptualises un post quand tu veux écrire sur un sujet? Est-ce que tu documentes par exemple avec des sources scientifiques pour apporter une information vérifiée ou tu te bases vraiment que sur ce que toi tu ressens?
Alors vu que je parle à la première personne, c'est mon avis et mon... J'écris pas à chaque fois ça, mais en fait ça va de soi que c'est mon avis et mon ressenti et que j'ai pas la vérité absolue. Donc oui, j'ai pas la vérité absolue, mais par exemple sur le post l'alcool, bah je cite des chiffres et des statistiques sur à quel point les Français boivent de l'alcool. Et donc là, je vais avoir une source et je vais écrire ma source. Mais globalement, en fait, ce qui se passe, c'est que je ressens une émotion. Je prends mon téléphone. Je vais dans notes. J'ai une note épinglée qui s'appelle Bernard texte, je sais pas quoi. Et puis je vais écrire des lignes de trucs que je pense. Et ensuite je le garde. Et puis d'un coup je me dis bah vas-y je vais illustrer ce post-là. Et je reprends le texte et parfois je fignole un peu, je retire des mots, j'en mets d'autres, j'essaye que ça soit mieux. Mais globalement j'essaye de rester sur mon impression première que où j'ai ressenti l'émotion quoi, ou le sujet dont je parle. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans mon bain et je réfléchissais à la nostalgie et je me disais des trucs sur la nostalgie et du coup bah j'ai pris mon téléphone et j'ai tout écrit. Mais le post, je l'ai toujours pas illustré, mais je sais que je le ferai un jour quoi. Donc voilà. Mais
ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup c'est presque comme une sorte de journal d'émotions quoi. Et où tu documentes un peu ce que tu ressens à travers l'illustration.
C'est ça. Et parfois c'est hyper compliqué parce que par exemple là il y avait un post sur l'anxiété que j'avais fait où je disais que en ce moment l'anxiété elle était hyper présente et tout. Et en fait il fallait que je sorte ce post au même moment où je ressentais cette anxiété parce que parfois j'illustre des émotions qui me sont arrivées il y a quelques semaines que je ressens plus. Et du coup, bah, le fait de les illustrer, ça me fait replonger dans ces émotions. Et c'est très bizarre, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais quand je fais un post sur un sujet, la semaine d'après, je ressens fois 1000 ce que j'ai écrit. Et parfois, c'est hyper compliqué parce que c'est des trucs pas hyper cool. Mais je sais pas. Donc en fait, sur le moment, ça m'enlève l'émotion de l'écrire. Sauf que quand je vais poster et le dire à tout le monde, en fait, tout va revenir. Donc, c'est hyper bizarre.
Et t'arrives, justement, à mettre des mots à chaque fois sur toutes les émotions que tu notes ou... Parce que des fois, ça peut être un peu compliqué de savoir vraiment quelle émotion c'est Ouais, enfin, savoir vraiment ce que c'est. Enfin, des fois, t'as du mal, des fois, à trouver les mots, ou ça vient peut-être maintenant aussi plus naturellement, comme t'as plus l'habitude.
Ouais, c'est ça. Au début, c'était hyper dur. Et au début, j'avais un espèce de carnet où j'écrivais genre 3-4 pages sur le sujet, de presque écriture automatique. Et ensuite, je relisais tout ce que j'avais écrit et je piquais des phrases de mon texte pour faire un texte plus court et pertinent, tu vois. Et maintenant, ça vient assez naturellement. Genre, je sais que si j'écris un texte, je vais rarement toucher à beaucoup de choses. Peut-être que je vais remplacer un mot par un autre parce que ça sera mieux choisi, mais je pense que avec le temps, je sais mieux identifier mes émotions et savoir exactement ce qui m'énerve. Et après, je fais beaucoup de métaphores. J'ai toujours fait beaucoup de métaphores dans ma vie et je pense que c'est hyper imagé. Et avec les illustrations en plus, c'est moins compliqué d'exprimer ce qu'on ressent, quoi.
Et est-ce que, comme là, tu disais que tu reçois une émotion, tu vas écrire sur ton portable du texte et tu vas le reprendre bien après, des fois, pour faire l'illustration. Est-ce que le fait de reprendre plus tard le texte pour l'illustrer, ça te permet des fois de prendre du recul aussi sur ce que tu vis et te questionner un peu sur ce que tu vis?
Bah ouais, carrément. Après, par exemple, le post de l'alcool, au début, il était hyper violent. Vraiment, genre, j'étais hyper violente dans mes propos, et parce que c'est un sujet qui me touche énormément. Et du coup, je l'ai fait relire à mes amis et... Enfin, j'ai 2-3 personnes dans mon entourage qui relisent constamment ce que je fais. Et ils m'ont dit, mais calme-toi. Enfin, en fait, ton propos, il va pas avoir de sens si tu t'énerves autant. Du coup, je l'ai adouci. Et par exemple, il y a d'autres fois où... En fait, ça dépend. Parfois, j'ai pas du tout envie de prendre du recul parce que c'est l'émotion que j'ai ressentie sur le moment et que même si je la ressens plus maintenant, bah, je l'ai ressentie et elle était viable, tu vois. Mmh. Mais parfois, ouais, je vais peut-être un peu tempérer. Parfois, je suis un peu extrême. Je fais un peu des métaphores extrêmes et puis je calme le jeu parce que bon, faut pas non plus dramatiser le truc. Ça dépend en fait. Je sais pas. J'essaye que ça me convienne et que si je le poste, je me dis que ça me ressemble et si ça me ressemble, c'est bon.
Mais d'ailleurs, justement, tu parlais du post que tu as fait sur le sujet de l'alcool. On voulait t'en parler parce que c'est que nous, on boit pas d'alcool. Toi, quand tu fais ce post-là, tu dénonces aussi un peu une pression sociale qu'il y a autour de l'alcool. Toi, pour toi, ces pressions sont clairement des sources d'anxiété?
Ouais. Enfin, au-delà d'une source d'anxiété, je trouve que... C'est tout ce que je déteste chez l'humain. C'est, je trouve que c'est un manque d'empathie, en fait, d'avoir une pression autour de ça. Parce que, déjà, rationnellement, la personne qui va te dire « Oh, mais t'es sérieux, tu bois pas un verre ?» C'est pas elle qui va boire un verre, en fait, à ta place. Et en plus de ça, si on prend du recul sur le sujet, c'est quand même quelque chose de pas naturel. Et en vrai, c'est une drogue. Et l'alcoolisme, c'est un vrai problème chez l'humain en général. Et je trouve que c'est un manque d'empathie et d'attention envers les autres que de forcer quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas envie. Et je trouve que juste l'alcool, c'est hyper banalisé. Mais ça peut être l'alcool comme, je sais pas moi, le fait de rester tard en soirée et tout. Tout ça. Et je trouve que la pression sociale qui nous met autour de ça, c'est une source d'anxiété parce que du coup... Enfin, moi, ça va parce que je pense que je suis plus âgée et que j'ai un caractère qui fait que si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et je m'en fiche de la vie des autres. Mais je pense que quand on est très jeune, et je pense à notamment en vrai quand j'étais au lycée, c'était un peu angoissant d'aller en soirée parce que les gens, ils se disaient « Ouais, on va se la mettre, on va être complètement bourré et tout. » Et c'était leur seul moyen de s'amuser. Et moi, ça, en fait, du coup, j'avais pas envie d'y aller à cette soirée et en fait, j'angoissais de l'arrivée de cette soirée, alors que en vrai c'est cool d'être avec tes copains et de passer une bonne soirée et de t'amuser et tout, mais ouais, je me disais on va me forcer à me boire des shots, si je bois pas des shots on va me dire que je suis chiante et tout, enfin je trouve que c'est une source d'anxiété et en plus d'isolement ou de forcer des trucs, enfin voilà, c'est enfin je trouve que c'est pas du tout ok dans la société de faire ça, quoi.
Ouais, mais t'as raison de raconter un petit peu tout ça. C'est que moi, j'ai aussi un peu connu ça. Là. Alors, c'était plus tard, c'était quand j'étais à la fac
où il y avait toutes ces soirées étudiantes là, où effectivement, comme tu disais, l'objectif c'était vraiment ça, en fait, c'était que de boire le plus. Et alors moi, c'est que comme j'étais déjà plus âgé, en fait, moi j'y allais pas, ça m'intéressait pas, je leur disais moi je viens pas, et puis moi c'était, toi je m'en foutais. Mais c'est vrai que pour quelqu'un, comme tu disais, peut-être au lycée, qui est plus jeune, etc., où tu as aussi l'effet de groupe, cette envie de suivre le groupe, etc., c'est que c'est pas évident. C'est que quelqu'un qui va se forcer alors qu'il a pas envie, c'est le pire derrière. Alors qu'en fait, pour de vrai, à la limite, il peut y aller, mais s'il a pas envie de boire, il boit pas, et puis voilà, ça s'arrête là. Puis
je bois pas très souvent, je bois rarement dans des circonstances où j'ai envie de boire, en fait. Et j'aime bien, moi, les cocktails et tout, mais genre les pintes de bière, pour moi, c'est la chose la plus ennuyante sur la planète. Et régulièrement, quand je prends des softs, on me dit « tu veux pas être plus fun, tu fais un challenge ». Ou alors, quand t'es une femme, on te dit aussi « t'es enceinte ». Je sais pas, tu vois, je trouve ça fou quand même. En fait, je trouve ça tellement débile, et c'est tout ce que je déteste chez l'humain. Et en fait, je trouve ça hyper triste. Et régulièrement, je me retrouve dans des soirées avec des gens qui sont là en mode « Oh mon Dieu, il n'y a plus d'alcool, qu'est-ce qu'on va faire? Vite, faut aller à l'épicerie, nanana. » Enfin, non, mec, je sais pas, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça hyper triste et je trouve que c'est hyper banalisé parce qu'en vrai, c'est quelque chose... c'est pas pareil, mais imaginons un mec qui prend de la coke, il va pas être stylé, en fait, alors qu'en soi, c'est de la drogue. C'est la même chose.
Ouais, mais est-ce que t'as aussi cet effet, en fait, c'est tellement la norme maintenant que dès que t'es un peu sorti de la norme, en fait, ça va pas, mais tu te dis, effectivement, quand tu le racontes, ce qui est presque choquant là-dedans, c'est qu'en fait, boire de l'alcool, c'est pas non plus quelque chose, tu vois, par rapport à cette norme qui dit qu'en soirée, il faut boire de l'alcool, quelque chose de fou, au final. Mais tu te dis, par exemple, ouais, sur des sujets qui vont être beaucoup plus graves, tu vois, tu parlais, par exemple, de l'homophobie tout à l'heure, ce genre de choses, là, tout de suite, c'est encore plus compliqué, du coup. Ouais. Donc tu dis, effectivement, s'il n'y a même pas de tolérance, déjà, sur ce sujet-là, c'est compliqué d'avoir de la... Pour ces mêmes personnes, ça se trouve d'avoir de la tolérance pour des sujets qui sont beaucoup plus graves, quoi.
Bah ouais, c'est ça. Et puis je me dis, en fait, qu'est-ce que ça peut leur faire de savoir ce que je vais mettre dans mon gosier, en fait. Je comprends pas. C'est pas toi qui va boire ma grenadine, c'est pas toi qui va boire mon chocolat chaud. Et régulièrement, il y a des serveurs aussi qui se moquent de moi, quoi. Je me dis, en plus, les softs, c'est globalement plus cher que l'alcool. Donc théoriquement, je vais plus ramener d'argent à ton bar. Donc laisse-moi prendre ma grenadine, tu vois. Enfin, je trouve ça fou, en fait. Mais c'est peut-être le poste le plus engagé que j'ai fait.
L'autre fois, il y a un serveur à Annecy qui nous a tapé dans la main parce qu'on avait pris une grenadine et que lui non plus buvait pas d'alcool. Donc tu vois.
Ah bon, bah c'est... Non, mais moi, la dernière fois, j'étais avec ma nièce, elle a 6 ans, et je venais de montrer le poste de l'alcool à mes parents, qui rigolaient parce que... eux, évidemment, ils boivent de l'alcool, mais ils en ont rien à... Enfin, justement, je suis leur fille, je bois pas d'alcool, ils sont très contents, quoi. Et en fait, la serveuse, elle apporte la grenadine et elle la pose à la place de ma nièce. Et moi, je lui dis, non, c'est pour moi. Et elle me dit, mais vous êtes sérieuse? Je lui dis, oui. En plus, il était 19h, je sais pas. Je lui dis, oui, je suis sérieuse. Et elle s'est moquée de moi. Et mes parents, ils étaient morts de rire parce qu'ils venaient de voir, en fait, mon Bernard sur l'alcool qui était la même chose que ce qu'on venait de vivre, en fait. C'est comme si quelqu'un avait mis en scène ce que je venais d'écrire, donc c'était super drôle. Et en même temps, je leur disais, c'est lourd, quoi.
Mais tu vois, j'ai vu la semaine dernière un reportage, là, c'est sur France TV Slash, il est sur YouTube, là, où il montrait les fêtes étudiantes en médecine, là, où c'est pas mal alcoolisé, on va dire. Et dont une qui avait mal tourné à Lille, parce qu'il y a un des participants qui est mort à l'issue d'une des fêtes. T'avais des intervenants, des anciens étudiants, donc ils les confrontaient avec la quantité d'alcool qu'ils buvaient. Donc il y en avait, c'était genre 120 verres par semaine, d'autres 80, des choses comme ça. Et eux, ils expliquaient qu'ils buvaient, alors des fois parce qu'ils aimaient ça, mais il y en a aussi beaucoup qui buvaient parce que c'était pour, en gros, ne pas louper quelque chose.
Oui, c'est ça, il y a la FOMO, je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, et bah, en fait, y a une énorme FOMO autour de ça, ouais.
Mais en fait, oui, c'est... et puis il y a une forme de culpabilité de se dire si je fais pas ça, mais c'est un peu comme ce que tu racontes sur ton poste étranger, où tu t'illustres Bernard qui, dans l'environnement d'une fête, mais qui préférait être chez lui tranquille dans son lit. En fait, il y a une forme de culpabilité de se dire si je le fais pas je vais louper quelque chose.
Mais en fait je trouve qu'il y a vraiment une pression sociale à ce qu'on fasse tous la même chose alors qu'on est tous des êtres différents, et ça je trouve ça fou parce que par essence tout le monde est différent. Donc il y a des gens, ils adorent faire la fête, il y a des gens, ils adorent être entourés de plein de gens en permanence, il y a des gens ils adorent je sais pas ils adorent les épinards, et il y en a ils détestent ça, et je sais pas, c'est normal, tu vois. Et je trouve que bah, quand j'ai fait le poste étranger, j'ai eu énormément de retours dans la vraie vie de gens qui me disaient « il est trop bien ce poste et tout ». Parce qu'en fait, je pense que la majorité des gens ressentent ça, mais ils se forcent depuis tellement longtemps à ne pas ressentir cette émotion que du coup, ça passe et ils restent à des soirées jusqu'à pas d'heure, juste pour être restés à la soirée, quoi. Alors qu'en vrai, le lendemain, ils vont se réveiller, ils vont être dans le mal parce qu'ils n'ont pas assez dormi, et qu'en plus, ils n'auront même pas passé une meilleure soirée que s'ils étaient partis 3 heures avant, quoi. Donc, ouais.
Mais à travers ces deux postes là, sur l'alcool et étranger, tu dis que tu avais eu des retours de personnes, et tu as eu des retours de personnes, justement, où ça a aidé certaines personnes à poser des mots, on va dire, dessus, qui peut-être qu'ils ressentaient ça, mais... causait pas forcément, effectivement, par exemple, de moins aller de soirée, etc., même s'ils n'avaient pas envie. Enfin, t'as eu des retours là-dessus, ça a pu peut-être aider certaines personnes à justement avoir conscience de tout ça?
Ouais, bah, je pense que. Enfin, c'est un poste qui a assez bien marché, enfin, qui a eu pas mal de visibilité, et je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. Après, en vrai, c'est quelque chose. Qui est pas non plus nouveau. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal de temps. En fait, c'est après le Covid, j'ai l'impression que les gens se sont rendus compte que c'était pas obligé de passer toutes les soirées avec des gens. Et du coup, j'ai l'impression que avec le Covid, le fait de pas sortir et de rester chez soi, ça a beaucoup plus été accepté socialement. Enfin, je sais pas si c'est que ma vision des choses, mais j'ai l'impression que ça a normalisé le fait de rester chez soi et de rester tout seul. Parce qu'en fait, les gens se sont ont découvert le fait d'être avec soi-même, et peut-être qu'il y en a certains qui ont bien aimé et que ça a fait plaisir, quoi. Donc, les gens, ils se sont un peu recentrés, j'ai l'impression, pendant le Covid.
Et est-ce que toi-même, t'arrives, toi, par exemple, à décliner certaines invitations, où tu sais que t'as peut-être pas forcément, en fait, envie d'aller, et sans peut-être ressentir cette forme de culpabilité de louper un truc, est-ce que t'arrives à gérer ça?
Ouais, bah, alors vraiment, même encore mieux, c'est-à-dire que les gens ne me proposent pas. C'est que je suis arrivée à un stade où je vais tellement pas aux soirées que je ne suis plus invitée, sauf vraiment pour des... Par exemple, ce soir, j'ai une soirée avec plein de gens, pour l'anniversaire d'un copain. Okay. Et là, je suis invitée parce que c'est un copain que je vois pas souvent, parce que c'est dans un bar, parce que les gens, je les connais assez pour que... En fait, limite, maintenant, les gens, ils sont étonnés quand je reste longtemps. Et encore pire, ils sont étonnés que je sois là. Donc, c'est-à-dire que quand je vais à des soirées, les gens, ils sont en mode « Oh mon Dieu, il y a Lola, trop bien que tu sois là et tout. » Ce qui me fait très plaisir. Mais en même temps, parfois, je n'ai même pas envie d'y aller parce que c'est tellement un... On me le fait tellement remarquer que je sois là, que ça soit quelque chose de fou, que parfois c'est un peu énervant parce que du coup les gens ils vont poser la question de « Et du coup toi dans ta vie, ça se passe comment ?» et tout ci et tout ça. Et moi j'aime pas trop les conversations comme ça, j'aime bien parler d'un sujet quelconque pendant des heures, mais les espèces de conversations un peu de la pluie et du beau temps et de devoir expliquer ce que je fais comme travail et tout, c'est quelque chose, même si c'est bienveillant de leur part, c'est quelque chose qui m'ennuie un peu. Du coup, je suis un peu tiraillée entre... Bah là, ce soir, par exemple, je vais à la soirée, j'ai dit que j'y allais, je vais y aller et ça va être sympa et je vais pouvoir rentrer quand je veux. Mais il y a des fois où, clairement, j'y vais pas et limite, ça me soulage de dire que j'y vais pas, en fait. J'ai aucun mal à dire que j'y vais pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de mal. Mais je pense aussi que c'est parce que j'ai un entourage qui me connaît et que Bernard et que tout ça, quoi.
Toi, du coup, quand tu disais que t'es arrivé à un stade où t'es même plus invité... enfin quelque part ça enfin des fois est-ce que ça peut te blesser de pas être invité à certaines peut-être à certaines soirées ou événements ou pas du tout maintenant t'es bien avec ça du coup?
En fait c'est une hyper bonne question. En fait parfois je me sens blessée mais par réflexe humain de la FOMO et tout. Et en fait moi j'ai pas du tout la FOMO, à la limite j'ai la FOMO de moi-même, genre de rater du temps avec moi-même, tu vois. Mais la dernière fois, j'ai pas été invitée à un truc. Et je me suis dit, oh merde, pourquoi j'ai pas été invitée? C'est horrible et tout. Et ensuite, je me suis dit, est-ce qu'en vrai, t'y serais allée? Et je me suis dit non. Et du coup, bah, je me suis dit, mais ça sert à rien que d'être blessée, en fait. Parce que dans tous les cas, j'y serais pas allée. Je sais que j'y serais pas allée, c'est une évidence. Donc, y a pas de quoi être blessée. Après, je pense que ça dépend vraiment de son entourage. Enfin, c'est juste parce que je pense que je communique avec des gens qui comprennent et qui, du coup, m'invitent quand ils savent qu'il y a une probabilité que je vienne, mais qui, globalement, vont pas m'inviter dès qu'il y a une soirée bar avec des pintes de bière parce qu'ils savent que je préfère rester chez moi.
Mais est-ce que à l'inverse, toi, ça te pousse peut-être plus à proposer des choses à certaines personnes? Mais par exemple, nous, c'est un peu ce qu'on fait. Nous, on préfère, en fait... Par exemple, inviter quelqu'un, une ou deux personnes, pour vraiment passer un moment, tu vois, où tu vas pouvoir vraiment discuter avec les gens, que de voir beaucoup de monde en même temps. Est-ce que toi, ça te fait peut-être un peu ça? Est-ce que tu préfères peut-être du coup, peut-être que ça te pousse effectivement peut-être plus à, sur ce mode-là, peut-être à proposer de ton côté, mais sur des petits groupes?
Ouais, moi j'aime bien, je déteste être avec beaucoup de gens. Vraiment, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Récemment, j'ai passé des vacances, on était 12. Et ça a été très très dur pour moi, vraiment, je referais plus jamais ça, et je savais que j'aurais dû pas y aller, et j'y suis allée quand même, et c'était compliqué. Et moi j'adore passer une soirée avec une personne, ou deux, ou trois, ouais, pour avoir vraiment des moments de qualité privilégiés avec des gens, et surtout parce que ça prend moins de batterie sociale en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus dans mes valeurs et ce que j'aime faire d'être avec peu de monde, quitte à limite... boire de l'alcool à deux, bon c'est pas ce que je vais faire tous les quatre matins, mais je trouve que limite c'est plus intéressant en fait, parce que ça va être moins dans l'excès, ça va être plus un moment convivial et tout que ouais, on se bourre la gueule et on finit mort à la fin de la soirée quoi.
Mais d'ailleurs t'as employé le terme, je crois, de batterie sociale, tu t'en parles un peu dans ton post le soir de Noël, où t'expliques une soirée en fait comme celle-ci où il y a quand même pas mal de monde te coûte en énergie, en attention. Et mais en même temps que tu mesurais la chance d'être entouré par ta famille, et du coup, est-ce que tu ressens une forme de culpabilité, parfois au regard de ton environnement, de ressentir tout ce que tu ressens, et de pas pouvoir peut-être donner justement assez, quoi?
Ouais, bah 100%, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Je crois que le truc qui m'accompagne le plus, c'est de me sentir coupable d'être comme je suis. Et j'ai l'impression d'être ingrate et je me dis, mais attends, t'as une vie de fou. Je sais pas, c'est bête, mais mes parents, ils sont ensemble, ils s'aiment. J'ai des frères et sœurs, je vis à Paris, j'ai un copain extraordinaire, j'ai des amis de ouf. Globalement, j'adore ma vie et tout. Et je me dis, mais quand même, c'est dur, quoi. Et donc, je passe mon temps à culpabiliser d'être comme ça et de pas rendre aux gens ou à la vie ce qu'elle me donne, tu vois. Et en même temps, je me dis, bah en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et soit t'apprends à vivre avec et tu transformes ça en une force ou je sais pas quoi. Soit bah juste tu te plains toute ta vie d'être comme t'es et c'est horrible quoi.
Toi, t'arrives à le gérer maintenant, on va dire cette forme de culpabilité, ou est-ce qu'il y a un moment donné c'était vraiment un peu exacerbé cette culpabilité, ou est-ce que là aujourd'hui t'arrives peut-être à mieux le gérer?
Bah il y avait un moment où ouais, la culpabilité en fait ça se transforme en détestation de soi, et vraiment j'étais méchante avec moi-même. Je me souviens, il y a un psy, c'est le psy que je vois actuellement, la première fois que je suis allée chez lui, on parle et tout, et il me dit ouais, et on va essayer de faire en sorte que tu sois plus douce avec toi-même. Et genre il m'a dit cette phrase, et pour moi ça me semblait improbable de changer ou d'être mieux avec moi-même. Et au final, je sais que je suis beaucoup plus sympa avec moi-même. Et il y a encore des moments où je me déteste, où je me dis... bah là, quand j'étais en vacances et que vraiment, je me demandais ce que je foutais là et que je me disais, mais en fait, t'es là, t'es en vacances avec des amis, tout le monde adore et pour toi, c'est ton enfer. Du coup, je me détestais. J'étais en mode, bah t'aurais pas dû faire ça, t'es nul, t'es même pas capable de supporter quelques soirées avec des gens et tout. Et en même temps, je me disais, ben, en fait, t'es comme ça et t'es pas autrement. Et voilà. Donc, en vrai, ça oscille un peu entre les deux. Et je pense que ça dépend de l'entourage. C'est que globalement, j'ai un entourage qui me fait pas ressentir de culpabilité. Et je pense que c'est ça qui compte énormément, c'est les gens avec qui on s'entoure et les gens qui me rendent pas coupable de pas venir à telle ou telle soirée ou de pas, ou je sais pas moi, de pas faire ceci ou cela que les autres ils arrivent à faire quoi.
Mais ce qui est intéressant avec ton histoire, c'est qu'on a souvent parlé de ce mot culpabilité. Il y a beaucoup de trucs, on se reconnaît dans ce que tu racontes, bah, notamment enfin l'histoire de l'alcool, les soirées. Mais nous, en fait, chez nous, il y a pas cette notion de culpabilité. En fait, moi, je dis, j'y vais pas.
Ouais, mais est-ce que c'est parce que vous êtes tous les deux ?
Ben, on n'a pas toujours été. Pendant les études, par contre, on n'était pas tous les deux.
Ok.
On n'était pas ensemble. On était géographiquement pas ensemble.
Ouais, après, c'est peut-être juste une histoire de caractère, au final.
Ouais, peut-être. Et puis, enfin, moi, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est hyper contrasté. Parce que je suis hyper sociable, j'adore parler, j'adore rencontrer des gens, je suis pas du tout timide, j'ai aucun mal à aller raconter ma vie à des gens et tout. Mais paradoxalement, la plupart des conversations avec les gens m'ennuient et très vite j'ai envie d'être toute seule et il y a beaucoup de choses qui me touchent et enfin c'est très bizarre. Genre je suis un peu l'inverse de moi-même, enfin tu vois. Et du coup, ça, c'est compliqué parce que de prime abord, les gens, ils pensent pas du tout que je suis comme ça, du coup. Ils pensent que, bah, moi, je suis le genre de meuf à boire des shots en soirée et à rester jusqu'à 6 heures du matin, alors que pas du tout, quoi.
Et d'ailleurs, tu parlais justement de, des fois, tu préférais être seul. Tu partages ton travail sur Instagram où là, justement, tu crées une communauté et puis vous êtes, on va dire, nombreux maintenant autour du sujet que tu défends. Est-ce que toi, ça te rassure que tu vois que d'autres personnes traversent la même chose que toi, ou au contraire, ça peut te faire un peu peur de se dire « Ah putain, en fait, il y a beaucoup de monde qui traverse ce genre de genre de problématiques ?»
Non, moi, en vrai, ni l'un ni l'autre. Le seul truc qui me fait plaisir, c'est d'aider et que les gens se sentent moins seuls. Après, moi, en vrai, ça me fait pas peur et ni ça me fait plaisir. Ça me fait pas plaisir de me dire qu'il y a plein de gens qui galèrent. Mais en même temps, ça me fait pas peur parce que je trouve ça normal et je trouverais ça bizarre que ça n'arrive à personne parce que sinon ça voudrait dire qu'on est des robots. Donc en fait, limite, ça me redonne un peu foi en l'humanité parce que je me dis que les gens, ils ont des émotions et des sentiments. Mais ça me fait pas peur. Et puis je dissocie vachement... j'ai bien conscience que c'est des gens derrière des écrans qui disent ce qu'ils ont envie de dire. Si ça peut les aider, c'est super, mais je suis Lola et Bernard, quoi. C'est... Même si je dis la même chose, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Et est-ce que tu trouves que par rapport à 10 ans, il y a plus de choses qui se mettent en place ? Tu vois, tu as été, par exemple, Marine l'Orphelin qui fait des vidéos sur ces sujets. Toi, avec ton compte Instagram, est-ce que tu sens qu'il y a plus de personnes qui créent des choses pour parler de, pour parler de santé mentale ?
Ah oui, oui, oui. Déjà, même le concept d'aller voir un psy... C'est devenu quelque chose d'assez normal et c'est génial. Y a énormément de contenu sur les réseaux sociaux. En vrai, je pense que j'ai créé ce compte pile à la bonne période de la vie parce que c'est quelque chose dont les gens ils font beaucoup plus attention. Et à l'inverse de nos parents, peut-être, j'ai l'impression que notre génération, ils ont envie de prendre soin de leur santé mentale quand même. Là où vraiment nos parents, c'était même pas une question qui se posait, quoi.
Bah, c'est un sujet qui n'existait pas.
C'est ça. En fait, il y a plein d'enfants qui le voient. Ils se disent, si mes parents ils étaient allés voir des psys, peut-être que moi j'aurais pas ça ou ça ou ça, quoi. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Mais peut-être que si tout le monde prend soin de sa santé mentale, peut-être qu'il y aura moins de méchanceté sur cette planète. Je sais pas.
On avait une dernière question. On l'a un peu évoqué. Tu t'es intervenu dans une vidéo de Marine l'Orphelin qui parlait d'anxiété. Et tu disais à un moment donné, c'était assez fort d'ailleurs, que tu ressentais que la vie n'était pas faite pour toi à certains moments. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas mieux? Et est-ce que tu souffres encore de crises d'angoisse? Et est-ce que tu arrives à penser que la vie est belle et bien faite pour toi?
Ouais, alors c'est vrai que j'ai dit cette phrase. Mais par exemple, j'ai jamais eu de pensée suicidaire ou ce genre de truc. Ça, je le précise. En fait, c'est juste que je me demandais ce que je foutais là. Genre, je me suis dit, bon, bah, je vais devoir y rester, puisqu'en vrai, j'ai envie de voir, et puis ça a l'air sympa, mais je comprends pas ce qu'il faut faire, j'ai pas du tout envie de faire ce qu'il faut faire. Moi, avant, j'avais pas envie d'avoir de métier, j'avais pas envie d'avoir des amis, j'avais pas envie d'avoir de copains, j'avais pas. En fait, j'avais rien envie de faire, mais j'avais quand même envie d'être là. Et maintenant, ça va mieux, mais en fait, je réalise que j'ai énormément de chance d'être dans la situation où je suis. C'est-à-dire que là, je suis en freelance. J'ai énormément de temps pour Bernard et parce que j'habite encore chez mes parents, parce que c'est plus pratique et tout. Mais il y a un moment dans ma vie où je vais devoir gagner vraiment de l'argent pour vivre. Et ce moment-là, il m'angoisse un peu parce que j'ai peur de pas pouvoir vivre de ce que j'aime. Et du coup, ouais, est-ce que j'ai encore des crises d'angoisse? Oui, moins quand même et moins fortes. Elles sont plus courtes. Je pleure très régulièrement, j'adore pleurer. J'ai besoin de pleurer très souvent. Et il y a des fois où ça va pas du tout, et il y a des fois où ça va très bien. Et en vrai, oui, ça va mieux. Mais voilà, je suis toujours ce que je suis et je pense que ça changera jamais et que juste avec l'âge et avec le temps, peut-être il y a des choses qui nous semblent moins importantes, quoi. On s'attarde moins sur certains sujets et du coup, peut-être la vie, elle est plus sympa, quoi. Mais après, je pense qu'à notre âge, enfin à l'âge que j'ai, tout le monde a un peu peur de l'avenir et de ce qui va se passer et tout. Et que je me dis juste que c'est normal de penser comme ça, en fait. Mais juste maintenant, j'essaye de pas renier mes émotions, quoi.
Ouais, parce que c'est aussi, en fait, c'est aussi un peu trouver sa place au final dans la société. Alors c'est que des fois tu te dis, bon, la société, j'aimerais bien qu'elle soit quand même autrement aussi. Mais c'est quoi, ouais, c'est pas facile des
Non, mais
fois.
c'est vrai
Ouais, je
qu'avant,
comprends.
vraiment, je me demandais ce que je faisais sur cette planète. Maintenant, je comprends un peu plus. Et je pense que c'est des problématiques que tout le monde a. Et c'est pas non plus. Enfin, c'est normal, en fait. Limite, si tu ressens pas ça, c'est que tu t'importes peu à toi-même, quoi. Moi, c'est juste que j'ai envie de faire bien les choses. Et du coup, bah, j'ai envie de réussir ce que j'entreprends. Mais en vrai. En vrai, voilà quoi. Puis en fait, c'est vraiment l'entourage. Moi, je suis hyper bien entourée et du coup, je sais que je suis jamais vraiment toute seule, même si parfois je me sens toute seule. Mais je sais qu'il y a toujours des gens, quoi.
Et peut-être aussi avec le temps, tu parlais justement de tes crises d'angoisse, t'arrives aussi peut-être à mieux les appréhender aussi. Enfin, tu reconnais des signaux qui tu sais quand ça va arriver, peut-être que t'arrives mieux à les gérer, quoi.
Ouais, après, une crise d'angoisse, ça reste assez imprévisible. Mais. J'ai moins de mal à m'isoler et à faire en sorte que ça aille mieux qu'avant. Avant, en fait, genre juste, je me laissais aller dans la crise d'angoisse et du coup, bah, tu deviens un peu hors de contrôle, quoi. Alors que maintenant, j'arrive plus à contrôler, à me dire, ok, bon, t'es en train de faire une crise d'angoisse, va dans un endroit seul, je sais pas, regarde une série. Fais je ne sais quoi qui va te faire du bien. Écris un Bernard et puis ça va aller quoi. Mais je pense que c'est à force de le vivre. Je pense que personne n'est capable de réagir comme ça à sa première crise d'angoisse quoi.
Eh ben merci Lola.
Eh ben merci beaucoup à vous deux, c'était hyper sympa.
Merci, ouais.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur ghost.sincenothing.com, rubrique blog, pour découvrir le travail de Lola sur Instagram et sur son site. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, nous en profitons pour remercier Lola pour nous avoir écrit et pour nous avoir proposé d'enregistrer cet épisode avec elle. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Since Nothing en tapant since.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écouté. À bientôt.